Merci Daniel, bonjour à tous. Bonjour particulièrement à ceux d'entre vous que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer ce matin. J'espère que vous allez tous bien. Avant d'ouvrir nos Bibles ce matin, ce qu'on va faire dans quelques instants, j'aimerais d'abord vous inviter à considérer avec moi un article du New York Times qui s'intitule La tyrannie de la facilité ou la tyrannie du confort. Le mot en anglais est un petit peu dur à traduire, mais je l'ai traduit comme ça, la tyrannie de la facilité. Alors, c'est une analyse personnelle du journaliste, mais je pense que vous serez comme moi d'accord qu'il met quand même le doigt sur quelque chose qui fait de plus en plus partie de notre expérience quotidienne. Pour ce journaliste, une des forces économiques, une des forces culturelles la plus sous-estimée du XXIe siècle, et particulièrement dans nos pays occidentaux, c'est la force de la facilité. C'est-à-dire le moyen ou la possibilité de faire des tâches plus facilement ou plus efficacement qu'avant. Et pour lui, cette force est à l'œuvre dans nos vies sous la forme d'une exigence, qu'on a tous de plus en plus, celle que tout soit facile, fluide, instantané et confortable. Pensez simplement au nombre de produits à succès qu'on connaît qui ont été conçus simplement pour nous permettre de faire quelque chose plus rapidement ou plus facilement qu'avant. Alors on pourrait penser à des grands classiques comme le lave-linge ou le lave-vaisselle, mais ça c'est déjà de l'histoire ancienne. Maintenant en 2018, on pense plus à nos smartphones et à nos applications. On s'embête plus à aller faire la queue dans les magasins. En deux clics, c'est commandé sur Amazon et c'est livré le lendemain matin. On s'embête plus à écrire à nos proches. On balance toutes les infos sur Facebook. C'est plus commode et plus rapide. On passe plus de coups de fil. C'est trop long. Alors hop, un petit message vocal sur WhatsApp et le tour est joué. Plus besoin même de faire les courses, on les fait à notre place et quelqu'un vient poser les sacs dans le coffre de notre voiture. Avant, on pouvait encore dire qu'on avait les pouces super musclés, mais maintenant, on n'a même plus besoin de taper. Ok Google, trouve-moi un resto à moins de 5 minutes, et c'est bon, ça se fait tout seul. Et parfois, on s'étonne de ceux qui font de la résistance. Et on leur dit, mais tu sais pas qu'il y a une appli pour faire ça? Tu fais encore ça tout seul? Il y a une appli qui permet de faire ça. Et parfois, on devient aussi faussement nostalgique. Et on se dit, mais comment est-ce qu'on faisait avant sans le portable? Comment on faisait avant sans Google Maps? Et tous ces produits qu'on connaît bien marchent parce qu'on est toujours à l'affût du prochain bon plan, on est toujours à l'affût de la prochaine astuce qui va nous permettre de gagner 5 minutes de notre temps ou qui va nous permettre de faciliter un petit peu plus notre vie. Et donc cet auteur du New York Times nous dit que cette idée de pouvoir et de vouloir faire tout plus facilement est devenue une sorte d'idéal, une valeur, un mode de vie auquel on participe tous plus ou moins. Et du coup, il se pose la question de savoir si notre fixation sur ce culte de la facilité ne pourrait quand même pas avoir des effets néfastes dans nos vies. Il dit au fond, évidemment, il n'y a rien de mal à vouloir être plus efficace, à rendre facile et rapide ce qui était difficile et long à faire. Ça part en tout cas d'une bonne intention. Mais il nous met en garde contre le côté obscur de cette tendance. Et il dit que cette recherche permanente du confort et de la facilité peut à la fois nous desservir, mais aussi nous asservir. Et du coup, il se pose une série de questions. Premièrement, il se dit, est-ce qu'on doit aspirer vraiment à une vie sans difficulté et sans obstacle? Est-ce que la notion de challenge et d'épreuve ne doit pas faire partie intégrante de nos vies? Et est-ce qu'on n'a pas besoin d'expérimenter autre chose que la facilité et le confort? Deuxièmement, il se pose la question suivante, est-ce que ce culte de la facilité et du confort n'impose pas des limites sur ce qu'on est prêt à faire ou à ne pas faire. Au fur et à mesure que beaucoup de choses deviennent de plus en plus faciles dans nos vies, notre patience diminue envers tout ce qui reste difficile. On s'habitue à ce que tout soit instantané, à ce que tout soit facile, et du coup, on devient agacé et frustré par les tâches qui restent difficiles et qui nous demandent du temps. Qui a déjà audiblement rouspété parce qu'une page web prenait plus de 10 secondes à charger? Je lève la main. C'est une réalité d'aujourd'hui. On s'attend à ce que tout soit facile, accessible, commode et sans effort. Au moindre contretemps, à la moindre difficulté, on devient frustré et souvent, on laisse même tomber. Et cette force-là s'impose à nous, s'impose à nos choix et finit par décider ce qu'on veut faire ou ce qu'on ne veut pas faire. Et donc, cet article conclut en disant qu'on est effectivement sous la tyrannie de la facilité aujourd'hui. La facilité et le confort. Alors, avec cette idée en tête, je vous invite à ouvrir nos Bibles, on reviendra à cette idée tout à l'heure, et vous allez rire, devinez dans quel chapitre et quel livre on va se trouver ce matin, dans Philippiens, chapitre 2. Ruben m'a devancé, et Rolly a devancé Ruben, mais on va continuer. Et on va quand même relire le texte, et le Seigneur fit bien les choses, parce que ça sera une autre partie qui retiendra notre attention ce matin. Donc je vous invite quand même à le relire, et on ne peut jamais assez relire la parole du Seigneur, comme ça on pourra bien s'en imprégner. Ici, Paul écrit donc à l'église de Philippe, c'était une ville romaine qui était située au nord de la Grèce actuelle, et voici donc ce qu'il leur dit, on va lire des versets 13 jusqu'au du verset 3 pardon, jusqu'au verset 16. Philippiens 2, versets 3 à 16. « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. En devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. » Verset 9, c'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui était au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel et sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux, en portant la parole de vie. Je pourrais alors être fier le jour de Christ de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. Le verset clé sur lequel j'aimerais qu'on passe un peu de temps ce matin, c'est le verset, le verset 12, et particulièrement la fin de ce verset 12, où Paul nous dit « Mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect ». Peut-être que dans votre traduction de la Bible, vous avez une tournure de phrase un peu différente. « Mettez en œuvre votre salut » ou « Faites donc fructifier votre salut » ou encore dans certaines versions « Travaillez à votre salut ». Si on regarde d'autres versets où Paul utilise le même mot dans le texte d'origine, dans le grec, puisque Paul écrivait en grec, on retrouve ce mot comme étant traduit à différents endroits par « pratiquer »,« produisez », »,« susciter »,« mettez en action » ou « mettez en œuvre ». Un commentateur nous dit que le mot grec, dans tous les cas, communique l'idée d'un effort soutenu et continu. Avec un effort soutenu et continu, Paul nous dit « mettez en œuvre votre salut ». Alors avant de voir pourquoi Paul nous laisse ce commandement, il faut peut-être déjà résoudre une tension que vous avez peut-être déjà perçue. Paul nous dit ici « mettez en œuvre votre salut ». Pourtant, c'est Paul qui écrit aussi ce verset que vous connaissez peut-être bien, Éphésiens 2, versets 8 et 9. C'est Paul aussi qui nous dit ça. Il nous dit « car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi ». Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Est-ce que Paul est en train de se contredire ici? D'un côté, dans sa lettre aux Éphésiens, dans ce verset-là, il nous dit « ce n'est point par les œuvres que vous êtes sauvés ». Et dans sa lettre aux Philippiens, dans le verset 12 qu'on vient de lire avant, il nous dit « mettez en œuvre votre salut ». Dans Éphésiens, Paul enseigne ici très clairement que le salut nous est offert en Jésus-Christ par pure grâce au moyen de la foi seule. Il n'y a aucune condition attachée à ce salut. Il n'y a rien qui nous dit « si vous faites ceci, alors vous aurez cela ». C'est par la grâce qu'on est justifié devant Dieu, par le moyen de la foi. On ne produit pas ce salut, on n'y est pour rien du tout. Dieu fait ça pour nous. Nous, on accepte et on reçoit par la foi ce qui a déjà été accompli pour chacun de nous. Et Paul est absolument clair là-dessus, et donc il exclut de fait tout salut qui serait une récompense pour nos bonnes œuvres, il exclut tout salut qui nous serait accordé en vertu de notre propre mérite. Donc dans le verset qui nous intéresse plus particulièrement ce matin, Philippiens 2:12, Paul n'est certainement pas en train de nous dire de mettre tout en œuvre, de travailler pour gagner un statut devant Dieu qui nous permettrait de dire « c'est bon, par mes œuvres, je suis sauvé, je suis juste maintenant devant Dieu ». Sinon, il serait en contradiction complète avec lui-même, avec ce verset d'Éphésiens qu'on vient de lire et avec de nombreux autres versets que l'on connaît dans le Nouveau Testament. Du coup, on peut se poser la question, de quoi est-ce que Paul nous parle ici? S'il ne nous parle pas de cette foi qui nous permet d'être justifiés devant Dieu, de toute évidence, il doit nous parler d'un autre aspect du salut. Et là, du coup, il faut creuser un peu plus le texte et le replacer surtout dans le contexte de toute la lettre que Paul écrit à cette église de Philippe, pour d'abord simplement comprendre que cette lettre, il l'adresse à des chrétiens, il l'adresse à une église. Donc il dit à des chrétiens, c'est-à-dire des personnes qui affirment déjà être sauvées par la grâce seule au moyen de la foi seule, il leur dit « Vous qui avez à cœur d'obéir, c'est le début du verset 12, vous qui avez à cœur d'obéir, mettez donc en œuvre, travaillez, faites fructifier votre salut. » Donc il n'est pas en train d'expliquer comment être sauvé, puisque ces personnes le sont déjà. Il écrit sa lettre pour expliquer à des chrétiens comment vivre une fois qu'ils sont sauvés. Ce qui veut dire qu'il donne cet impératif, ce commandement, en disant « Ce salut que vous avez déjà reçu, vous devez maintenant le faire fructifier, vous devez maintenant le mettre en œuvre, le manifester dans votre vie par des efforts soutenus et constants. » Alors généralement, je ne sais pas vous, mais en tout cas c'est mon cas, quand on nous demande de faire quelque chose, les deux questions naturelles qui viennent ensuite, c'est « Pourquoi et comment ?» Et en répondant à ces deux questions, on va en même temps découvrir exactement ce que Paul veut dire quand il nous dit « mettez en œuvre votre salut ». On va voir tout de suite qu'à la question du pourquoi, Paul nous laisse d'abord deux raisons, deux sources de motivation par lesquelles il nous dit donc « allez mettre en œuvre votre salut ». Et on verra ensuite qu'à la question du comment, il nous laisse d'abord un moyen qui va nous permettre de mettre en œuvre notre salut, et ensuite il nous laisse aussi une méthode, ou on pourrait dire une façon de faire. D'abord, on va commencer par le pourquoi. Quelle est la raison, pour quelle raison est-ce que Paul nous laisse ce commandement et cet impératif? Si on regarde de près le verset 12, vous avez peut-être remarqué, il commence avec un mot-clé, le mot « ainsi ».« Ainsi, mes bien-aimés, mettez en œuvre votre salut ». Et ce mot « ainsi » nous renvoie à une raison antérieure à laquelle Paul fait référence. Donc il faut qu'on remonte dans le texte, et cette raison, c'est les versets 3 à 12. Vous les connaissez déjà bien, on les a lus plusieurs fois ce matin. Mais on peut les résumer de la façon suivante. En somme, Paul nous dit, versets 3 et 4, « Ne regardez pas à vos propres intérêts, au contraire, soyez comme Christ. Prenez exemple sur lui », c'est le verset 5. Versets 6 et 7, « Il s'est dépouillé, il s'est fait serviteur, il s'est humilié, il a obéi jusqu'à la mort, et donc Dieu l'a élevé », verset 9, « et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. » Et là, Paul enchaîne ensuite avec le verset 12, et il nous dit « Ainsi, ou c'est pourquoi, mettez en œuvre votre salut. » Donc pour Paul, l'œuvre de Jésus, qui nous expose dans les versets 3 à 11, cette œuvre est le fondement de ce commandement qu'il nous donne. Et on trouve dans l'œuvre de Jésus, donc, deux motivations, deux raisons pour nous de mettre en œuvre notre salut. La première de ces motivations, c'est Christ mort à la croix. La deuxième, c'est Christ ressuscité et élevé par Dieu. Et ces deux aspects sont importants pour nous ce matin à distinguer. Premièrement, notre première motivation, c'est Christ mort à la croix. C'est une motivation pour nous parce que Jésus est celui par qui nous avons acquis notre salut. Ruben nous l'a rappelé tout à l'heure. Si par la mort de Christ, on a été déclaré juste devant Dieu, alors on est bénéficiaire de son œuvre et donc on doit maintenant se comporter dignement de cette œuvre et de la personne de Christ. L'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean, chapitre 2, verset 3, « Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. » Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Et c'est cette idée-là que Paul veut nous communiquer ici dans ces versets. En réponse à ce que Jésus a fait pour chacun de nous, Paul nous dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ et donc c'est pourquoi mettez en œuvre votre salut. Donc ça, c'est notre première motivation, la première raison que Paul nous donne, c'est Christ mort à la croix, parce que Christ est la source de notre salut, et il est donc notre exemple à imiter. Notre seconde motivation, c'est Christ ressuscité. Et là, Paul nous parle d'une promesse, la promesse de participer à la gloire future de Jésus. Il nous rappelle au verset 9 que Dieu a élevé Jésus-Christ à la plus haute place, justement parce que Jésus s'est humilié jusqu'à la mort sur la croix. Et ensuite, Paul nous dit au verset 16, un peu plus loin, et là c'est Paul qui parle, il dit « Je, moi Paul, je pourrai alors être fier le jour de Christ, c'est-à-dire le jour du retour de Christ, je pourrai alors être fier de ne pas avoir couru ni travaillé pour rien. » Donc Paul dit « Moi Paul, je serai fier d'avoir mis en œuvre mon salut lorsque Christ reviendra et que je pourrai alors participer à sa gloire. » L'apôtre Pierre nous dit aussi la même chose dans 1 Pierre 4, au verset 13. Pierre nous dit « Réjouissez-vous de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie lorsque sa gloire sera dévoilée. Réjouissez-vous de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être dans la joie lorsque sa gloire sera dévoilée, c'est-à-dire lors de son retour. Donc notre deuxième source de motivation, elle est là. C'est Christ ressuscité et élevé. C'est lui la source de notre espérance. C'est lui qui est ce but vers lequel on avance, avec l'envie d'être fier comme Paul, d'avoir mis en œuvre notre salut le jour de son retour. Et c'est pour ces deux raisons-là que Paul nous dit, ainsi, mettez en œuvre votre salut. Ensuite, Paul continue et il nous donne au verset 13 le moyen, ou on pourrait dire la puissance par laquelle on va pouvoir mettre en œuvre notre salut. Il nous dit au verset 13, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect, en effet, ou on pourrait dire parce que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Le moyen par lequel on peut mettre en œuvre notre salut, c'est la puissance de Dieu qui agit en nous pour produire le vouloir et le faire. Faire fructifier notre salut, c'est aussi et surtout, et c'est Paul qui nous dit ça ici, c'est surtout une œuvre de la grâce de Dieu dans nos vies. Mais en même temps, et peut-être que ça vous le fait aussi, en lisant ces versets 12 et 13 ensemble, on perçoit quand même une tension. D'un côté, Paul nous dit que c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire, et de l'autre, il nous adresse directement ce commandement en nous disant à chacun de nous, mettez en œuvre votre salut. Comment ça marche ça? Entre nous, entre Dieu, comment ça fonctionne? Et je pense que quelque part, on doit accepter simplement que cette tension provient du mystère de la façon dont Dieu travaille dans nos vies. Mais ce qui est sûr, c'est que dans ces versets, on ne trouve rien, absolument rien, qui serait pour nous une excuse qui nous permettrait de justifier notre passivité. Oui, Dieu produit le vouloir et le faire. Il produit en nous le miracle de l'obéissance. Mais il ne nous dit pas non plus que ce sera sans notre participation et sans nos efforts. Paul souligne à la fois l'activité de Dieu et l'activité humaine. Les deux vont ensemble. Et on le sait ça, c'est pas comme si un matin on allait se réveiller dans un mode un peu en autopilote, avec notre cerveau complètement débranché et Dieu aux commandes de chacun de nos faits et gestes. On sait que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il ne nous contraint pas. Il ne nous force pas la main contre notre propre volonté. En revanche, et c'est le sens de ce verset, il nous invite à entrer dans une relation dynamique avec lui à laquelle on doit participer pleinement. Donc ça, c'est le moyen que Paul nous donne, le moyen que Dieu nous donne et que Paul nous rapporte. C'est la puissance de son esprit qui travaille en nous pour nous permettre de produire cet effort soutenu et continu pour mettre en œuvre notre salut. Ensuite, le dernier élément que Paul nous laisse pour nous aider à comprendre ce commandement, c'est la façon de faire, ou la méthode, on pourrait dire, avec laquelle on doit mettre en œuvre notre salut. Et là, Paul nous dit de le faire avec crainte et respect. On le trouve directement dans le verset 12. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et respect. De quelle crainte est-ce que Paul nous parle ici? C'est certainement pas la crainte du pécheur qui est perdu devant Dieu et qui a peur de ce que Dieu pourrait lui faire à cause de son péché. Parce que Dieu nous donne l'assurance que notre salut ne dépend pas de nos œuvres. Donc ce n'est pas cette peur-là. C'est plutôt la crainte d'un enfant qui se retrouve devant le plus aimant des pères et qui craint de faire de la peine à son père à cause des choix et des manquements dans sa vie. C'est donc une crainte et un respect qui doit nous pousser à l'action et à la bonne action. C'est d'abord une crainte qui nous fait prendre conscience du sérieux de la tâche qui nous incombe, qui nous fait prendre conscience de notre responsabilité face à Dieu. C'est la volonté qu'on doit avoir d'être un bon intendant de la nouvelle vie que Dieu nous offre en Jésus-Christ. C'est ensuite la crainte qui doit nous pousser à agir, même si la tâche est difficile et coûteuse. Au verset 4 de ce chapitre 2 de Philippiens, Paul nous dit que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Et plus loin, au verset 14, il nous dit « faites tout ». Et là, il fait référence à tout ce qu'il nous a dit avant. Donc, « mettez en œuvre votre salut, faites tout ça ». Sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochable et pur. Paul ne suppose pas que la tâche est facile, mais par contre, il nous demande quand même d'être exemplaire. Et pour finir, c'est une crainte et un respect qui nous renvoient encore une fois à l'appel que Paul nous lance à imiter Christ. Mettez en œuvre votre salut avec l'humilité, avec la crainte, avec le respect dont Christ a déjà fait preuve. Donc voilà quelques points que Paul nous laisse pour nous aider à comprendre ce qu'il veut dire exactement par « mettez en œuvre votre salut ». La richesse de ce verset, je trouve, et de ce chapitre en entier, le chapitre 2 de Philippiens, c'est qu'il nous amène à une meilleure compréhension de ce que doit être le salut pour nous qui sommes déjà chrétiens. La Bible nous décrit en somme deux chemins, deux routes qu'on pourrait suivre dans notre vie. Le premier chemin, c'est celui de la perdition, c'est le chemin qui nous mène en enfer. Le second chemin, c'est le chemin du salut qui nous mène au ciel. Et quand on regarde des versets ce matin, les versets d'Éphésiens, les versets de Philippiens, on comprend que par grâce pure, au moyen seul de notre foi, Dieu nous place sur le chemin du salut, ce chemin qui nous mène au ciel. Il nous donne l'assurance de notre destination au bout de ce chemin. Il nous dit, c'est sûr, un jour tu seras avec moi dans ma maison, ce sera ta ligne d'arrivée, ce sera ta destination finale, ton repos céleste et éternel. Tu as ma promesse, tu es absolument certain d'y arriver. Mais Dieu nous dit aussi, et c'est la vérité qui est au cœur de ce verset 12, Dieu nous dit, d'ici là, tu dois avancer sur ce chemin, et sur ce chemin, tu dois mettre en œuvre ton salut, par un effort continu et soutenu. Pourquoi est-ce que tu dois avancer sur ce chemin? Pour quelle raison? Parce que par amour, tu dois imiter Christ, il est la source de ton salut que tu as déjà reçu et qui te permet d'être sur ce chemin. Et il est aussi la source de ton espérance qui est à venir et vers laquelle tu es en train de marcher sur ce chemin. Par quels moyens est-ce que tu dois avancer? Tu dois avancer avec l'assurance que Dieu sera ton soutien et que son esprit agira en toi pour te permettre d'avancer en produisant le vouloir et le faire. De quelle façon est-ce que tu dois avancer? En imitant Christ avec humilité, avec crainte et respect, parce que lui t'a déjà montré par sa vie comment avancer sur ce même chemin. Et donc Dieu nous dit, voilà, je t'équipe, je te donne ce package complet, il ne te manque absolument rien, mais maintenant par contre c'est à toi de jouer, c'est à toi qui as les jambes pour avancer sur ce chemin. Donc mets en œuvre tout ce qu'il faut pour rester sur ce chemin, sois en mouvement pour avancer sur ce chemin, produis tous les efforts nécessaires pour faire fructifier ton salut et vise la ligne d'arrivée qui est le glorieux retour de Christ auquel tu seras fier de participer. Et on doit garder en tête cette image quand on est chrétien, cette image de ce chemin qu'on doit suivre. Cette double réalité de ce qui est déjà et de ce qui n'est pas encore. On est déjà sur le chemin, on est déjà sauvé, on est déjà justifié devant Dieu, on est déjà assuré de notre salut, mais on n'est pas encore arrivé. Et puisqu'on n'est pas encore arrivé, du coup se pose la question, eh bien d'ici là, quoi? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et là, on en revient à notre petite réflexion du début, la tyrannie de la facilité. Est-ce que dans notre vie chrétienne, on fait nos choix pour que notre chemin soit facile, confortable et sans effort? Après tout, pourquoi pas? On est assuré de la destination. Est-ce qu'on devient frustré et en colère au moindre accroc, à la moindre difficulté, au moindre contretemps? Est-ce que notre première priorité, c'est de servir nos propres intérêts pour garantir notre confort et la facilité de notre vie? Ou est-ce que, au contraire, notre priorité, c'est de regarder d'abord aux intérêts de Christ et de son Église et de mettre en œuvre notre salut avec des efforts soutenus et continus? Et je peux vous dire qu'à la lecture de ce texte, pour Paul, il n'y avait aucun, absolument aucun doute sur ces questions. Pour lui, Christ n'était pas mort pour lui offrir ici-bas une vie confortable et facile. Et en étudiant ce texte, à titre personnel, je me suis senti profondément repris et challengé par ce que Paul nous dit, parce que Paul nous communique de la part du Seigneur et aussi par l'exemple de la vie de Paul à cet égard. Alors concrètement, ça ressemble à quoi de mettre en œuvre son salut? Assez franchement, on a toute la Bible pour nous éclairer à ce sujet-là, mais je vous laisse ici trois pistes pratiques qui vont sûrement parler à chacun de nous. Première piste, mener un combat impitoyable contre le péché dans notre vie. Lorsqu'on devient chrétien, Dieu ne retire pas instantanément et magiquement de notre vie tous nos péchés. Ce serait bien, mais ce n'est pas le cas. Et face à ce problème, il n'y a pas non plus de solution de facilité. On aimerait bien qu'il y ait une appli pour ça, un truc à 99 centimes sur l'App Store qui nous permet de ne plus pécher. Mais ça ne marche pas comme ça. On aimerait bien aussi qu'il y ait un raccourci clavier, un coup de CTRL-Z de temps en temps dans notre vie, ce serait chouette. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile de lutter contre le péché dans notre vie qu'on doit pour autant laisser tomber, qu'on doit se décourager, qu'on doit être passif ou qu'on doit jouer la victime face à notre péché. Oui, on aimerait que ce soit facile. Mais Dieu, parfois dans sa sagesse, nous laisse avec cette réalité du péché dans notre vie pour nous permettre de le combattre et pour nous permettre de mettre en œuvre notre salut dans la dépendance à lui. Et face à notre péché, Paul nous dit en somme, réveille-toi, sois actif, pas parce que tu as la force toi-même pour faire ce qui est nécessaire, mais parce que Dieu est avec toi pour produire le vouloir et le faire, qui va te permettre de vaincre ton péché et d'avancer sur ce chemin du salut. Mais Paul nous rappelle aussi que ça va se passer nécessairement avec notre participation pleine et entière. Deuxième piste pratique, affronter les épreuves et grandir à travers elles. Quand on réalise que Dieu nous demande de mettre en œuvre notre salut, on doit avoir un regard différent sur les épreuves qui vont jalonner notre vie. Le monde en général, et tout particulièrement cette vision dont on a parlé tout à l'heure, cette tyrannie de la facilité, nous dit que toutes choses dans notre vie doivent concourir à notre confort. Toutes choses doivent concourir à notre confort. Mais Paul nous dit, et là c'est dans Romains au chapitre 8, toutes choses doivent concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il y a une différence énorme entre concourir à notre confort et concourir à notre bien. On s'est posé tout à l'heure cette question. Est-ce qu'on doit aspirer à une vie sans difficulté et sans obstacle? Est-ce qu'il serait bon pour nous de pouvoir effacer de notre vie toutes les difficultés? Et clairement, Dieu ici nous dit que non. Quand on comprend ce que Paul nous dit ici, les épreuves, quelle que soit leur nature, ne sont plus simplement des tares à éviter, des tares à contourner, des choses à traverser tête baissée le plus vite possible pour retrouver notre confort dès que possible. Les épreuves deviennent plutôt un instrument de Dieu à l'œuvre dans notre vie et des occasions qu'il nous donne pour mettre en œuvre notre salut. Par différentes épreuves, par différentes difficultés, effectivement, on peut perdre notre confort, on peut perdre ce qui rend notre vie facile et agréable. Est-ce que la tyrannie de la facilité, du coup, nous pousse à voir ces épreuves comme des anomalies, à éviter coûte que coûte, ou est-ce que Dieu, par son esprit, nous permet d'y voir des occasions de faire de Christ notre plus grande joie? Et à ce sujet, Paul nous dit, au verset 14 et 15, on les a lus tout à l'heure, mais il nous dit « Faites tout sans murmure ni contestation ». Là, Paul nous parle de difficultés qu'on pourrait traverser. « Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochable et pur ». Troisième et dernier point, servir activement Christ et son Église. En préparant ce message, je me suis posé une question. C'était quand la dernière fois que tu t'es dit, pétard, la vie chrétienne, la vie de disciple de Christ, c'est quand même vachement difficile à vivre. Pas dans le sens de « je suis en train de traverser une épreuve et c'est difficile », pas non plus dans le sens de « je suis en train de lutter contre le péché dans ma vie et c'est difficile », bien que ces deux choses-là soient valables, mais dans le sens de « j'ai activement, avec détermination et résolution, entrepris quelque chose pour Christ, au service de son Église, et je me rends compte que c'est difficile et que ça me coûte ». Mettre en œuvre notre salut, ce n'est pas simplement réagir aux différents événements de notre vie. Ce n'est pas simplement lutter contre ce péché qui, de toute façon, est là. Ce n'est pas simplement savoir sortir la tête haute d'une épreuve qui va s'imposer à nous de toute façon. C'est aussi et surtout savoir être actif et à l'œuvre au service de l'Église sans être sous cette tyrannie de la facilité qui nous pousse à éviter tout ce qui pourrait être difficile, tout ce qui pourrait nous coûter. Paul nous rappelle au verset 4 que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Là, Paul nous parle clairement de la vie d'Église. Donc voilà trois pistes pour faire fructifier notre salut, trois choses que Dieu utilise dans notre vie. Et ce matin, quelle que soit votre situation particulière, quelle que soit votre situation personnelle face à ces trois points, la seule option qui n'est pas valable, c'est l'inaction et la facilité. Travailler à notre salut, c'est accepter avec joie que notre vie chrétienne ne sera pas un long fleuve tranquille. C'est accepter que quels que soient les conforts qu'on pourra perdre, quelles que soient les épreuves à surmonter, notre plus grand trésor reste Christ, mort et ressuscité pour nous. Et pour conclure, je vous laisse simplement avec cette citation de C.S. Lewis, c'est un auteur chrétien, né à Belfast, un Irlandais, encore mieux, et il reprend cette image de notre vie de disciple comme étant un voyage, un chemin sur lequel on est engagé. Voici ce qu'il nous dit. « Pendant notre voyage, notre Père peut nous réconforter avec des auberges agréables sur notre chemin, mais il nous encourage à ne pas les confondre avec sa maison. » La Bible nous donne la promesse d'un repos éternel auprès de Dieu. La promesse d'un repos dans sa maison dans laquelle il nous a préparé une place. C'est notre espérance et c'est l'aboutissement de notre chemin de salut. Mais est-ce qu'il n'est pas temps pour nous de savoir aussi sortir de l'auberge? Est-ce qu'on ne passe pas trop de temps au repos, sous la tyrannie de la facilité, et pas assez de temps à avancer sur ce chemin du salut que le Seigneur prépare pour nous et sur lequel il nous appelle à mettre en œuvre notre salut? Voilà, que la parole du Seigneur puisse nous accompagner, que ce texte de Philippiens 2 qu'on a bien eu le temps de lire et relire ce matin, et c'est une grâce, puisse nous accompagner aussi pendant cette semaine, pendant cet été, et que ces questions et ce texte aussi puissent nous travailler chacun de nous dans notre cœur. Amen.